When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews et face à face, Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel. Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Philippe Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir également sur
Ravi
le plateau.
D'être présent.
Geoffroy Lejeune, Philippe Doucet pour nous accompagner avec cette thématique pour commencer après la mort de Shamseddine, 15 ans battu à mort à Viry-Châtillon. Une marche blanche aujourd'hui, la mort d'une autre personne également à Bordeaux, tué à coups de couteau tandis que son agresseur a été abattu par la police, ou encore l'assassinat d'un adolescent à Romans-sur-Isère, apparemment avec préméditation, le boulanger de Vigneux, et j'en passe, le tout dans une période extrêmement rapprochée. Les forces de l'ordre ont beau intervenir, la justice punir, cela ne suffit pas. En matière d'insécurité et de violence, est-il déjà trop tard? Je vous poserai la question dans quelques instants. Mais d'abord, pour illustrer cette thématique, écoutez Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, dans l'émotion encore lors de cette marche blanche aujourd'hui en hommage à Shamseddine. Il résume toute l'impuissance face à la violence.
Ça peut paraître super, super naïf, mais c'est quand même, faut prendre conscience quand même qu'un garçon de 15 ans s'est fait tabasser comme ça mortellement. Mais c'est tellement, tellement fou que forcément il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors c'est vrai, on a déjà pris conscience, on passe tous notre temps à prendre conscience, mes collègues prennent conscience, les députés, les sénateurs, les ministres, et faut peut-être encore un peu plus, aller encore un petit peu plus loin. Et il faut peut-être aller un peu plus dans le concret, aller au plus près des enseignants, au plus près des parents, et puis au plus près des enfants, jeunes, très jeunes, pour éviter justement qu'à 15 ans, on puisse perdre d'autres Shamseddine.
Il faut prendre conscience, Geoffroy Lejeune. Mais ces violences, ces faits divers ou ces faits de société dont nous parlons, est-ce qu'ils ne sont pas ancrés dans l'imaginaire également des émeutes, de la violence des ados, du trafic de drogue? Est-ce qu'il n'est pas trop tard?
J'espère que non. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si je puis me permettre, moi, cette image, elle me dérange un peu, l'image de ce maire, dont le comportement, en plus, a évolué. Il était plus dur au début qu'à la fin, dans ses propos, etc. Je pense que l'extrait qu'on vient de voir, c'est l'allégorie de la République désarmée, en fait. C'est-à-dire qu'il a son émotion, et ça, pour le coup, on est tous émus, lui, le premier, parce qu'évidemment, il connaît ses gens, il connaît ses familles, c'est chez lui. Enfin, je me remets pas en doute du tout. La marche blanche, elle est légitime, et en fait, je pense que d'ailleurs, c'est peut-être le seul moyen qu'on a trouvé de faire s'exprimer de manière collective une incompréhension, une émotion, une tristesse, une peine, etc. Donc, je remets pas ça en question. En revanche, ce qu'il dit n'a aucun sens. En tout cas, c'est pas le rôle d'un élu de dire ça. À la limite, si c'était un citoyen pioché au hasard dans la manifestation qui dit juste qu'il est triste et qu'il peut rien faire, très bien. Mais en fait, il représente d'une certaine manière l'État à cet endroit-là. Et ce qu'il dit est terrible. J'opposerai d'ailleurs cette réaction à celle de Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, qui, à la fois là, à cause du gamin poignardé et tué d'ailleurs à Romans-sur-Isère, mais aussi au moment du drame de Crépol, elle avait pour le coup saisi l'occasion de cette exposition médiatique malheureuse sur sa commune pour donner un diagnostic tout de suite qui était le fruit de son expérience et ensuite proposer des solutions. J'avais préféré l'attitude, si vous voulez, en termes de lucidité, de combativité, etc. Là, je trouve ça terrible, en fait, d'opposer ce visage-là à ce qui s'est passé.
Il faut prendre conscience, dit-il, malgré tout. Ça, c'est aussi le rôle d'un élu, Philippe Doucet. Prendre conscience, c'est ce que l'on dit à chaque fois qu'il y a un drame. Il faut que...
Oui, enfin, c'est le rôle d'un élu, c'est au-delà de prendre conscience. Le rôle d'un élu, c'est d'être dans l'action.
Trouver des solutions.
Oui, trouver des solutions et d'avancer. Dans un autre registre, il y a eu un drame à Argenteuil, ma commune, avec une logique de harcèlement ou une jeune sur les réseaux sociaux, où une jeune femme s'est trouvée, a été emmenée par deux amis à elle, deux amis entre guillemets, pour être noyée. Bon, parce que dispute amoureuse, les réseaux
c'est
sociaux.
C'est arrivé récemment.
Voilà. C'est arrivé il y a 3 ans de mémoire. Donc, oui. Donc, bon, vous avez ce type de choses. Évidemment, les parents dévastés, la commune, les habitants. Bon, voilà. Bon. Pourquoi? Parce que vous avez la question quelque part, une espèce de logique de l'honneur, la logique réputationnelle, très importante chez les jeunes. Et il y a ça. Voilà. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment, à l'école, par exemple, on a un programme d'éducation aux réseaux sociaux. Je donne un exemple. J'ai quelques cheveux blancs, même si j'ai 20 ans dans ma tête. Mais quand j'étais au collège, j'ai eu des cours sur, en plus des cours, sur le temps du midi, où on a fait une analyse de film. Vous voyez, à l'époque, on présentait des films en noir et blanc, et j'ai eu le droit à un prof qui, sur son temps, en plus de son temps, nous a présenté comment on montait un film, comment ça se montait. J'ai gardé cette heure de cours qui n'était pas du cours dans ma tête sur le traitement de l'image. Bah aujourd'hui, des jeunes, il faut les former. Moi, à titre professionnel, je forme des élus à la gestion des réseaux, de leurs propres réseaux sociaux, sur les photos.
À filmer les agressions pour qu'elles soient encore mieux mises en valeur.
Non,
j'explique. Parce que c'est de ça dont il s'agit. À votre époque, vous savez, il n'y avait pas de téléphone portable. On ne pouvait pas filmer avec le téléphone.
On ne pouvait pas filmer, mais j'explique aujourd'hui à des élus, vous ne mettez pas vos photos de vacances sur les réseaux sociaux. Vous protégez votre famille. Voilà, parce que derrière, avec ça, il n'y a plus d'oubli. Donc, vous n'avez pas, vous faites attention. Vous protégez votre famille, vous ne mettez pas vos photos de vacances, vos photos privées, vous ne les mettez pas sur les réseaux sociaux. Donc cet apprentissage pour les jeunes j'ai encore vu quelqu'un ce matin qui m'explique, quelqu'un m'a hacké mon téléphone et je me suis retrouvé avec des photos de mes vacances en maillot de bain avec quelqu'un qui a voulu faire du chantage parce que son téléphone avait été hacké.
Mais est-ce que c'est au maire, est-ce que c'est à l'école de se substituer à la famille pour faire l'éducation des enfants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en général?
Sur les réseaux sociaux, c'est sûr, parce que le problème des familles, moi, je le vois par rapport à mes enfants. Eux, ils sont nés avec, ils sont natifs avec. Moi, c'est une langue étrangère. Voilà, j'ai appris, mais c'est une langue étrangère. Eux, ils sont nés avec. Et même dans mes enfants, il y a différents âges. Et le dernier, il est beaucoup plus né avec que ma fille aînée, qui est déjà un peu plus âgée. Vous voyez, donc, les personnes âgées, aujourd'hui, les personnes âgées vont prendre des cours pour savoir comment utiliser WhatsApp. Donc, avant qu'elles soient super balèzes sur les réseaux sociaux et tout. Mais par contre, ça se développe. Facebook a disparu chez les jeunes. Facebook progresse chez les seniors. Donc, cet apprentissage de ce nouveau média, faut l'apprendre à l'école par rapport à ça, parce que il y a les dangers par rapport à ça. Sur les tablettes, les mômes, ils regardent tout un tas de choses. Les parents, mes enfants, ils ont été serrés de près. Ma compagne, de donner cet exemple, a découvert que le dernier avait regardé 450 épisodes de la série Naruto, qui est une série japonaise. Alors ça va, parce que c'était Naruto, une série japonaise avec un héros sympathique, ça aurait pu être autre chose. Et pourtant, le gamin, il est tenu très serré. Bon, mais il n'empêche.
Les réseaux sociaux, le téléphone, en effet.
Et donc la logique réputationnelle, si quelqu'un elle se comporte mal, c'est une pute, c'est machin, et ça y est, c'est parti, les disputes amoureuses, c'est ce qui se passe
mais
par rapport à ça.
Ça, c'est ce qu'on voit en surface, évidemment, et les termes que vous employez sont les termes, effectivement, qui sont écrits.
Pardon de le dire,
devant vos téléspectateurs,
on est dans le réel. Hein.
Ça, c'est ce qu'on voit en surface, mais Geoffroy Lejeune, est-ce qu'il n'y a pas, à l'origine, avant qu'on en arrive à la publication, sur les réseaux sociaux de scènes de violence ou d'agression, tout simplement d'autres explications qui peuvent passer par l'éducation, qui peuvent passer aussi peut-être par les origines sociales. Il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent déboucher malheureusement sur ces drames.
Je vais répondre à cette question, je pense que c'est la bonne question. J'adorerais que ce soit un problème de réseaux sociaux. J'adorerais que ce soit un problème d'éducation aux réseaux sociaux. J'adorerais que ce soit un problème de jeux vidéo. J'adorerais que ce soit un problème d'oisiveté aussi. J'adorerais que toutes ces explications qu'on entend régulièrement dans la bouche de nos responsables, et notamment celle du président de la République, dès qu'il faut expliquer ce genre de choses, j'adorerais qu'il s'agisse de ça. J'adorerais qu'on fasse des grands plans pour les réseaux sociaux, qu'on limite les réseaux sociaux et que le problème de l'insécurité en France soit réglé. Je pense malheureusement, et je vais répondre à votre question Lionel, que c'est tout à fait autre chose. Je pense que si on relit l'actualité très récente sans être allé chercher dans les archives de la Ve République pour expliquer ce que je vais dire, je pense que quand la petite Samara est dans le coma parce qu'on lui a reproché de s'habiller à l'occidentale, à l'européenne pardon, que quand le petit Shamseddine est assassiné au nom d'un certain code d'honneur parce qu'il aurait parlé à une jeune fille et que le clan, la tribu, je sais pas comment faut appeler, la famille de cette jeune fille n'était pas contente, et je pense que quand hier, même si c'est un, si vous pouvez rajouter le sujet immigration à ça, un Afghan clandestin, enfin un migrant afghan qui assassine des gens parce qu'il les voit, des Nord-Africains parce qu'il les voit boire de l'alcool, je pense que tout ça dessine un paysage dans lequel en réalité, et ça n'est pas qu'une question de réseaux sociaux, même si tout ça fait partie de l'équation, je pense qu'on est en train de découvrir qu'on est entré dans un système où il y a une police des mœurs en fait, où il y a, et c'est pas uniquement...
Et vous faites le lien net et direct avec la religion.
Ah, je fais pas le lien avec les religions, je fais le lien avec l'islam, évidemment, parce que en fait, c'est une religion, c'est la charia en réalité, ça concerne pas les mœurs orthodoxes ou bouddhistes, là personne n'embête personne, mais je pense si vous voulez que on est arrivé, et je fais exprès de distinguer je pense que c'est le même phénomène, mais que dans le cas de l'Afghan qui est arrivé il y a qui est arrivé il y a deux ans et qui voit des gens boire de l'alcool, ça lui est insupportable. Mais en fait, c'est le même réflexe au fond que des gamins qui sont nés ici et qui disent elle s'habille comme une pute, comme à l'occidentale, à l'européenne, et donc on va pas laisser passer ça. Je pense que ça. On peut même faire le lien d'ailleurs avec, c'est un peu différent, mais avec l'affaire de Strasbourg, qui pour moi est très 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 importante, c'est-à-dire l'espèce d'entrisme forcené.
Lien avec l'islam là aussi.
Et voilà, et je pense que c'est ça qu'on a sous les yeux. Le réseau social est un phénomène aggravant de tout ça, parce qu'en fait, vous avez des menaces de mort, vous avez des noms qui sont donnés, vous avez des photos, etc. etc. Mais qu'à la base, le problème qu'on a, c'est celui-là en fait.
Faites-vous aussi le lien avec la religion entre tous ces événements qui semblent se tisser dans la même sphère, Philippe Douchy.
Alors, il y a deux choses. Je sous-streamerai pas autant que vous la question des réseaux sociaux, parce que c'est pas simplement un phénomène amplificateur, c'est aussi que ça met sur la place publique des choses qui existaient peut-être auparavant, où il pouvait y avoir de la conflictualité, mais finalement, il n'y avait pas de lieu de conflictualité. C'est-à-dire, des gens pouvaient auparavant sortir des horreurs au café du commerce, bon, maintenant, ils peuvent sortir des horreurs avec une amplification que vous n'avez pas dans un café du commerce où vous avez 20 personnes qui boivent un coup. Bon, voilà, donc le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est une parole débridée avec la violence que tout ça peut générer, la mise sous pression par rapport à ça. Sur la question de la police des morts, moi, je nie pas qu'il puisse y avoir un problème. Mais une nouvelle fois, parce que quand vous dites Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, il dit quelque chose, mais enfin, pardon, j'ai toujours pas vu à l'école d'éducation aux réseaux sociaux, et il a, pour le coup, il n'a pas de prise de conscience avec un plan d'action sur les réseaux sociaux. Sur la police des mœurs, à nous de poser les choses. À nous de poser les choses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous empêche, en termes de responsabilité politique, de dire ce que nous voulons, ce que nous voulons pas? Pardon, dans un autre...
Pourquoi on ne se pose pas cette question?
Mais
je vous retourne la question. Pourquoi justement sur la police des mœurs, on ne sait pas encore interroger?
Je pense qu'il y a une attente profonde des citoyens. Il y a bien un mouvement MeToo. J'entendais en venant ici dans cette émission ce qui se passe dans l'armée. Vous avez un mouvement, une vague qui est en train de traverser au fur et à mesure tous les corps sociaux, toutes les professions. Donc qui est une vague importante par rapport à ça, avec un mouvement féministe extrêmement puissant, une vraie révolution anthropologique par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, par rapport à notre vision de la République, à notre vision de la laïcité, de porter ça? Beaucoup d'élus de fond, beaucoup de responsables politiques de fond, mais à un moment donné, dans un pays, selon le proverbe chinois, le poisson pris par la tête, donc c'est au président de la République de donner la ligne par rapport à ça, en disant ce qui est... D'ailleurs, je pense que les Français l'attendent profondément. L'attendent profondément, parce que, en gros, tout le monde, c'est un pays qui est assez libertin, au sens où chacun fait comme il veut. Voilà, chacun veut, on laisse l'autre faire. C'était le cas pour les responsables politiques, à différence des États-Unis. C'est pas un pays puritain, c'est un pays libertin, dans le meilleur sens du terme. Et bien, les gens, les citoyens, ils attendent une ligne, comme il y a le combat pour la libération des femmes ou l'égalité homme-femme. Et bien, il y a une attente de se dire, voilà, il n'y a pas de police des mœurs, chacun fait comme il veut. Et c'est une demande. Voilà, j'étais encore aujourd'hui à Argenteuil, dans les rues, en train de discuter avec des gens d'origine et de culture arabo-musulmane, mais même eux s'en attendent de ça. Parce qu'ils veulent des règles du jeu claires.
Quand le président de la République et quand le Premier ministre Gabriel Attal, quand il y a des drames, comme notamment des professeurs qui sont, c'était le cas d'Arras, qui sont assassinés, dit « on ne laissera rien passer ». En l'occurrence, il y a des trous dans la raquette, encore une fois.
On n'a rien laissé passer, mais trois mois après, quand le proviseur de Maurice Ravel a démissionné parce qu'il était menacé de mort, on a dit c'est convenance personnelle, et circuler, il n'y a rien à voir. Le rectorat a quand même dit ça. Il n'y a pas une autorité publique, il n'y a pas un ministre, premier ministre, président qui a dit non, attendez, arrêtez vos délires. C'est pas une convenance personnelle d'être menacé de mort. Donc maintenant, on le réintègre de force jusqu'à ce qu'il ait fini son.
L'affaire de 4 mois, hein. Il part à la retraite fin juin, de mémoire.
Exactement.
À la retraite fin juin.
Donc, ça, on l'a pas fait. Il faut quand même souligner qu'on l'a pas fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Parce que je pense qu'il y a des raisons quand même. On n'est pas peuplé d'islamo-gauchistes ou de lâches qui n'ont pas envie. Il y a deux raisons à ça pour moi. C'est premièrement, une partie de la classe politique réalise ce problème récemment. Et en fait, ils réfléchissent en se disant, il y a 5, 6, 7, 8, 10 millions peut-être de musulmans dans ce pays, on ne sait pas exactement, et combien parmi eux sont dans le camp de la police des mœurs, combien parmi eux en sont victimes, on ne sait pas non plus réellement, premièrement, et donc...
On peut estimer que c'est quand même une très très faible minorité, une très très grosse minorité qui est dans la police des mœurs.
Dieu merci, mais d'ailleurs...
Voilà.
C'est
bien de le préciser quand même, parce que l'amalgame est souvent fait.
Sauf faire de ma part, je ne sais plus si c'est le CVPOF en lien avec la Fondation Jean Jaurès qui a fait une étude assez approfondie sur ce sujet-là, et de mémoire, c'est pas négligeable, mais il doit y avoir une quinzaine de pourcents de gens, entre guillemets, qui pourraient, donc on pourrait considérer qu'ils sont dans la police des mœurs. D'accord, mais c'est derrière après. 15%. D'accord, donc ça, voilà. Mais à l'arrivée, moi, ce que je vois au quotidien, c'est qu'il y a cette demande par rapport à ça, y compris de gens qui peuvent être très pratiquants. Ouais. Parce que derrière, c'est pas parce que eux, vous pouvez être très pratiquant comme des chrétiens peuvent être très pratiquants, mais se dire ça, c'est mon choix à moi, mais je ne veux pas que mon choix à moi soit imposé aux autres. Je veux pouvoir exercer mon culte librement, mais d'une certaine façon, moi, si Geoffroy Lejeune il est catholique, je m'en fiche comme de ma première chemise. Moi, je ne le suis pas. Il peut aller à la messe tous les semaines, tous les jours, il peut faire les vêpres. Je m'en fiche comme de ma première chemise. Mais les musulmans, ils restent de la même manière. Oui. Personne alors, ne... Voilà, je veux dire, tout le monde s'en fiche. Alors, moi, quand je suis sur Argenteuil, je dis clairement, je suis athée, ça ne dérange personne.
Qui nous permet d'en venir... Voilà. Je vous cède la parole juste après Geoffroy Lejeune, parce que c'est une...
Vous voulez revenir aux vêpres avec Geoffroy Lejeune ?
Non, pas les vêpres, pas les vêpres. En tout cas, non, mais...
Je vais à la messe tous les dimanches et je fais les vêpres.
À l'affaire de la vendeuse voilée de,
oui,
de Strasbourg.
Ça,
mais voilà, et je vais vous céder la parole là-dessus, mais on va revoir la séquence parce que c'est une jeune femme qui devait commencer une mission intérimaire dans un magasin Geox donc de la ville en Alsace, qui est arrivée voilée. Le gérant de la boutique, je retrace les faits, lui a opposé son refus. Il est dans son droit, il faut le préciser, mais la jeune femme a préféré filmer la scène, la mettre en ligne sur les réseaux sociaux. La vidéo a dépassé le million de vues, donc on en vient encore aux réseaux sociaux avec les menaces de mort qui ont suivi évidemment pour le gérant. Regardez la séquence.
Alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos appels.
Monsieur, je parle qu'à un moment. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener
ici. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires.
J'attends que vous finissiez.
Non, c'est un lieu privé.
Parce que vous n'allez pas changer mes propos.
Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais...
C'est vous qui changez mes propos.
Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. Hein. Bah, idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi.
J'attends que vous finissiez.
Ah, mais vous n'allez pas attendre que je finisse.
Bien sûr.
Si je vous demande de sortir, vous sortez.
Non, bien sûr. J'attends que vous finissiez. J'attends que vous finissiez. Parce que je ne veux pas que vous changiez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester.
Je ne change pas les
vous
propos.
Vous me dites de partir. C'est différent.
Je ne change pas les propos.
Vous me dites vous de partir. C'est différent.
Vous n'avez pas la tenue adéquate. Je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate.
Voilà, dites ça. Mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester.
Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit.
Non, pas du tout.
On va pas y
parler. Pas du tout.
Effectivement, il faudra trouver un autre student.
Et je vous cède la parole, Geoffroy Lejeune, par rapport à votre propos. Vous avez été coupé, mais cela rejoint effectivement ce que vous étiez en train de dire sur l'application, la laïcité, bien sûr, mais l'application et être en phase avec sa religion, qu'on soit d'ailleurs chrétien ou là, en l'occurrence, musulman.
Pour moi, c'est l'illustration de quelque chose qui existe. Je disais tout à l'heure que les responsables politiques doivent être tétanisés par le nombre et par l'incertitude sur le nombre de gens à l'intérieur de cette communauté qui sont capables de passer, de forcer la porte. Et cette histoire-là, elle est symptomatique parce qu'en réalité, c'est une jeune femme, enfin, je dis elle est jeune, ouais, une jeune femme qui... premièrement, qui connaît la loi, qui sait que, en tout cas, qui sait qu'elle n'a pas la loi pour elle au moment où elle vient voiler, alors qu'elle n'a pas précisé avant, etc., etc., qu'elle respecte pas le règlement intérieur, et qui se filme pendant qu'elle le fait. Et elle, par ailleurs, on a découvert depuis qu'elle s'est vantée avant l'entretien, enfin avant de venir travailler dans ce magasin, elle s'est vantée d'avoir un profil LinkedIn, donc pour se faire recruter où elle n'était pas voilée, mais d'aller voiler travailler pour tester, pour voir la réaction des gens, etc. Donc là, elle est tombée sur quelqu'un qui n'était pas d'accord, mais c'est du purantrisme. En fait, c'est vraiment le bélier qui essaye d'enfoncer la porte. Et d'ailleurs, Maurice Ravel, pour moi, c'était un peu la même chose. Une gamine qui sait que dans l'établissement scolaire, elle n'a pas le droit, mais elle essaye quand même. Et observer les réactions, c'est ça qui est intéressant, parce que là il a réagi, Maurice Ravel il a réagi et ils sont menacés de mort. Le prochain gérant de magasin Geox qui va avoir déboulé une intérimaire voilée, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Est-ce qu'il préfère avoir
peut-être y a-t-il eu des cas de ce type-là chez Geox ou ailleurs et que le gérant s'est tu parce qu'il a estimé effectivement qu'il devait, il ne voulait pas faire de polémique ou tout simplement qu'il avait l'impression que ce n'était pas une atteinte à la laïcité ou à la loi, mais tout simplement une atteinte à la liberté individuelle.
Mais en fait, il peut penser ce qu'il veut, tout simplement pour rester.
Peut-être que la personne se sentait discriminée. Ok, téléguidée et tout ce qu'elle a fait, elle avait prévu de le faire.
Mais
on peut estimer qu'elle est discriminée aussi dans sa religion par.
Oui, mais non, en fait, désolé, voilà, c'est comme ça en France.
C'est comme un vendeur qui arborerait une étoile de David ou une croix dans un magasin.
Est-ce
que ce ne serait pas comparable?
Non, mais en fait, pas du tout. Le règlement intérieur est très clair. Le gérant ne veut pas une vendeuse voilée. Il n'a pas de vendeuse voilée. C'est comme ça. Il n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est interdit dans les établissements scolaires. C'est interdit dans les administrations. À un moment donné, on peut se faire respecter, en fait.
Non. Attendez, il y a deux choses. Alors, il y a ce que je pense, et pour le moment, il y a les textes de loi. Les textes de loi, plus en tant que député, c'est moi qui étais chargé avec les radicaux de gauche de gérer la jurisprudence Babylou qui a été intégré dans l'article 1 de la loi El Khomri de 2016. Donc, parce qu'il y avait eu le sujet Babylou, c'était ça. Hein, bon. La crèche Babylou, pour ceux qui se souviennent. Donc, la loi dit quoi ? Vous ne pouvez pas avoir de signes religieux dans ce qui est les services publics. Donc, quelqu'un qui travaille à l'état civil d'une mairie, il ne peut pas...
C'est le principe de neutralité.
De neutralité de l'État. Ah, donc, oui. Il ne peut pas porter d'étoiles de David, de croix, de voile, etc. Une élue de la République siégeant dans un conseil municipal peut porter un voile. Voilà. Par exemple, dans le conseil municipal d'Argenteuil, il y en a deux, voilà, dont une de mes amies, mais donc, ils peuvent porter un voile. Voilà, parce que ça, il n'y a pas de service public, c'est la liberté que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de laïcité dans les entreprises. L'entreprise n'est pas un service public, donc oui. La règle de base dans l'entreprise, c'est que vous arrivez comme vous voulez.
Mais ce n'est pas discriminant voilà. Dans l'entreprise.
Au bout. Non, mais c'est pas fini. Parce que...
Donc, ok, après... Une entreprise, jurisprudence Babylou, intégrée article 1 de la loi El Khomri 2016, une entreprise par un règlement intérieur peut, pour des raisons sanitaires ou des raisons de protection, par exemple d'où Babylou parce que les enfants, la sécurité, etc., peut édicter dans son règlement intérieur le fait qu'il ne peut pas y avoir de signes religieux, par exemple, je ne sais pas, des abayas ou des choses comme ça parce que les enfants, enfin bon. Et donc, voilà, la question est-ce que Geox, l'entreprise Geox a ce règlement intérieur ou pas ? C'est ça le sujet par rapport à ça.
Je crois okay. que la réponse est non. C'est bon. À la discrétion du gérant, tout
donc,
simplement.
Non, donc il n'y a pas de règlement intérieur. Parce qu'autrement, l'entreprise, le voilà. Groupe Geox, qui est un groupe, c'est allemand,
c'était je crois. C'était la discrétion du gérant.
Donc la discrétion du gérant. Donc ça, c'est une chose. Donc, légalement, la jeune femme peut tout à fait travailler si on lui bloque sur son foulard, c'est une discrimination. D'accord. Après, le chef d'entreprise peut considérer que, au vu de son profil LinkedIn et du CV qu'elle avait déposé à la boîte d'intérim, qu'a tromperie par rapport à ça, ce qui est un autre sujet. Ça n'empêche pas la logique entre guillemets de l'entrisme, mais le sujet est différent. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut. La loi, c'est celle-là.
Je vous laisse conclure. Geoffroy Lejeune, il nous reste une petite minute avant la pause.
En fait,
sur ce sujet.
Conclure par l'essentiel, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Elle l'expose et lui est menacé de mort. Donc moi, je me pose la question des suivants. C'est-à-dire que, en fait. Il y a quand même une armée, pardonnez-moi, je le dis pas au sens guerrier du terme, mais ils sont nombreux à vouloir tester les limites de absolument tout. Vous avez les demandes de menus à la cantine, vous avez les demandes de piscine, d'horaires séparés à la piscine, le burkini à la piscine, le burkini sur les plages. Je veux dire, on a une actualité qui, d'année après année, nous fait voir grandir le catalogue des revendications islamiques, hein. Et en fait, nous, on oppose le catalogue de textes de loi de Philippe était assez clair. On se creuse la tête en permanence pour savoir comment cohabiter.
Oui, mais les groupes de les entreprises aujourd'hui, elles prennent des chartes sur la diversité, prennent des chartes sur l'égalité hommes-femmes, etc. Elles peuvent sortir une charte sur la laïcité en sortant des règlements intérieurs par rapport à ça.
Et notamment
pour dire
sur
on
le
souhaite
port
pas.
Du voile.
Voilà, elles peuvent tout à fait le faire. Elles le font bien sur la place des femmes maintenant avec les rectifications salariales, ce que c'est pas fait. La place des syndicats. Faut avoir toutes les catégories des entreprises maintenant les trucs écologiques. Elles peuvent tout à fait se faire toutes les entreprises et elles auraient intérêt à le faire une charte de laïcité pour que les choses soient claires parce que comme ça il faut poser les règles du jeu. Voilà, c'est comme je dis toujours. On joue au football sur le terrain de football.
Il y a pas de règles du jeu.
On joue pas au rugby sur le terrain de football. Et le problème aujourd'hui c'est qu'on a une tendance à jouer au rugby sur le terrain de football. Pardon, Lionel, mais je parle à un spécialiste.
Oui, bien sûr. On passe de la mêlée à la surface de réparation. On marque une pause et on se retrouve avec Geoffroy Lejeune et Philippe Doucet pour la deuxième partie de Ça se dispute. À tout de suite. La deuxième partie de Ça se dispute en direct sur CNews avec Geoffroy Lejeune et Philippe Doucet. On débat dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'information. Adrien Fontenot, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, annonce ce soir le lancement de dizaines de roquettes sur des positions israéliennes. Une annonce qui intervient alors que la crainte grandit autour d'une riposte iranienne contre Israël, accusée d'une frappe contre le consulat iranien à Damas. Et dans ce contexte, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien inébranlable à la défense d'Israël avec l'envoi de renforts au Proche-Orient. En Essonne, à Forges-les-Bains, deux enfants ont été retrouvés morts dans un champ ce vendredi. Il s'agit d'une fillette de 3 ans et de son frère de 20 mois. Leur père, qui a tenté de se suicider jeudi soir, s'est rendu aux autorités et a été placé en garde à vue. Le parquet d'Evry annonce l'ouverture d'une enquête pour assassinat. Et puis l'inflation en France se confirme. L'INSEE indique que les prix à la consommation ont progressé de 2,3% sur un an au mois de mars. Une augmentation d'une année sur l'autre, mais une baisse par rapport au mois de février où elle était à 3%. Cette différence est le résultat du ralentissement des prix de l'alimentation, des services, de l'énergie et des produits manufacturés.
Merci Adrien. L'information revient à 22h sur CNews. Deuxième partie donc de Ça se dispute avec Philippe Doucet et Geoffroy Lejeune et les Républicains qui sont en colère après la décision hier du Conseil constitutionnel d'invalider le référendum sur l'immigration. C'était une demande, une requête des Républicains qui se sont rendus ce matin à la frontière franco-italienne à Menton pour dénoncer, je cite, l'impuissance de l'État face à l'immigration à l'image d'Éric Ciotti.
Le Conseil constitutionnel a pris une décision qui, pour moi, constitue un véritable scandale démocratique. J'ai dit hier que je n'étais pas surpris, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le Conseil constitutionnel est sous l'emprise, sous l'influence de M. Macron, qu'il obéit. M. Macron avait demandé que les Français ne puissent pas se prononcer sur cette question essentielle de l'immigration. Il ne le souhaite pas, parce qu'il a peur du vote des Français.
La peur du vote des Français ou peut-être le fait que l'on connaîtrait le résultat d'un éventuel référendum si d'aventure il y en avait un. Mais Philippe Doucet, par rapport aux propos d'Éric Ciotti, est-ce que l'État face à l'immigration est vraiment impuissant ou manipulateur comme il semble le dire ?
Non mais enfin, franchement, enfin, il va, je ne sais pas où il va finir Éric Ciotti. Au Conseil constitutionnel pour nos téléspectateurs, il y a un monsieur notamment qui siège, il s'appelle Alain Juppé, qui m'a jamais paru, est un gauchiste halluciné, un islamo-gauchiste, etc. pour commencer. Et qui vient de sa famille politique.
Enfin, c'est pas la droite.
Voilà, il était même un de leurs candidats à la primaire il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016, à l'automne 2016, si ma mémoire est bonne. Bon, donc, maintenant, si monsieur Alain Juppé est devenu un pro-immigrationniste, c'est pas sérieux.
Il a jamais été contre l'immigration. Il l'a été une fois dans sa vie, pendant deux semaines, pendant les années 90, et il a demandé pardon pour ça, des années plus tard.
Enfin, en tout cas, bon. Ensuite, il y a juste un problème de droit. Ce qui était d'ailleurs le débat, c'est que l'article 11 sur ce sur quoi peut porter le référendum, il prévoit pas ce sujet-là. Donc si on veut...
À savoir réformer l'accès aux prestations sociales des migrants.
Voilà. Donc,
c'est là que le bât blesse, en fait.
Le sujet de mémoire sur l'article 11, je l'ai plus en tête à 100%, mais c'est sur l'organisation des pouvoirs publics de mémoire. Bien. Donc si, c'était d'ailleurs le débat qui avait eu lieu sous Mitterrand, pour ceux qui se souviennent, que M. Charras avait évoqué... pour François Mitterrand, qui était faire le référendum sur le référendum. Donc si on veut changer les règles du jeu du référendum de l'article 11, ce qui vaut pour l'immigration, mais ce qui peut valoir pour la taxation des riches, pour tous les sujets que vous voulez, par exemple, faut changer l'article 11. Donc c'est-à-dire faire un référendum sur le référendum. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je trouve que c'est un outil démocratique qui a été beaucoup utilisé par le général de Gaulle, qui a été aussi utilisé et par François Mitterrand, Michel Rocard et tout ça sur un certain nombre de sujets clés. Et donc, il peut être important sur tout un tas de sujets que les Français puissent le faire, parce que la réforme de constitutionnel sur le RIP, le référendum d'initiative populaire, la barre est tellement haute que ça marche sur aucun sujet, pas plus sur l'immigration, que sur les services publics, que sur la retraite, que sur quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai pas de problème. On peut faire un référendum sur l'immigration, on peut faire un référendum sur l'âge de la retraite, mais il faut changer l'article 11. Et Éric Ciotti, qui est quand même un député de la République et pas depuis la semaine dernière, il sait parfaitement le contenu de l'article 11. Donc, c'est un mauvais débat. Voilà, c'est un mauvais débat par rapport à ça. Et en plus, je pense que c'est pas utile de mentir aux Français sur ce qu'est la Constitution.
Oui.
Il propose de la changer.
Mais
ça, je l'entends.
Ça a du sens tout de même ce que dit Éric Ciotti par rapport à ce que pensent les Français de l'immigration,
sûr,
notamment.
Évidemment.
On peut le voir avec ce sondage récent pour CNews, les Français qui sont pour, assez massivement, 69%, un référendum sur l'immigration. Est-ce pour cette raison, d'ailleurs, que Éric Ciotti dit que Emmanuel Macron ou le gouvernement ont peur d'un référendum sur l'immigration parce qu'on connaît forcément le résultat.
Mais évidemment, mais d'ailleurs, en fait, tout l'argumentaire de Philippe vient de prouver une chose, c'est que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments juridiques à opposer au fait de faire un référendum, mais politiquement, c'est indéfendable. Il a raison, Ciotti, de parler de scandale démocratique. Moi, je suis désolé. En fait, le sujet de l'immigration, c'est probablement un des sujets les plus importants, pas forcément en termes de préoccupation, etc., encore que les Français sont préoccupés par ça.
Pouvoir d'achat d'abord. L'immigration, l'insécurité et l'immigration.
On aurait pu faire le même sondage. Je pense que si on demandait de faire un référendum sur l'âge des retraites, je pense que la même majorité de sortir par rapport à ça. Il y a une demande, d'expression démocratique et le référendum est une expression démocratique.
Mais changeons. Mais mon argument vaut pour les retraites comme pour l'immigration. Mais en l'occurrence, l'immigration, je pense que ça a un caractère plus grave parce que ça engage l'avenir au sens où ça fait changer la population. Quand on accueille 3 ou 400 000 personnes par an nouvelles et que, avec les successions génération, le droit du sol, etc., elles finissent par devenir françaises, ça change la composition d'une population, et ça, pour le coup, ça engage l'avenir. Bon, et du coup, moi, je pose une question. Quand les Français, dans l'histoire de la Ve République, ont-ils été consultés sur la question de l'immigration? La réponse est simple, ça n'est jamais arrivé. Parfois, ils ont répondu à des élections en parlant d'immigration. Pendant longtemps, le vote Le Pen, par exemple, était une réponse sur la question de l'immigration de gens qui votaient là-dessus pour Jean-Marie Le Pen. On peut considérer, par exemple, que 2005, le référendum est perdu parce qu'il y a une part de vote anti-immigration, même s'il n'y a pas que ça, etc. Mais en attendant, sur cette question-là, ils n'ont jamais été consultés.
Le référendum sur l'Europe, par exemple, on peut pas parler d'immigration européenne?
C'est ça que je disais.
Oui, non mais le sujet, enfin, je pense qu'il y a plus une inquiétude de la classe politique, pas simplement par rapport à la question migratoire, c'est qu'en fait, le dernier grand référendum, c'est celui de 2005. Et donc, comme la majorité de la classe politique était pour le oui et que les Français ont dit non, bah, tout le monde se dit comment ça fonctionne. Après, on évoquait, parce qu'il est régulièrement à cette place sur ce plateau, dans le livre de Philippe Guibert qui est sorti il y a quelques jours, que j'invite tous les responsables politiques à lire, il y a aussi le fait qu'on soit passé au quinquennat, le fait que cette logique de temps ramassé est beaucoup plus compliquée, et que s'il y a un référendum de type 2005, qui peut valoir pour les retraites, qui peut valoir pour l'immigration, qui peut valoir pour les impôts sur les plus riches. Mais donc, on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, il y a une demande d'expression démocratique, une demande de respiration démocratique. Et ça vaut sur plein de sujets dans la société. C'est pour ça qu'on a cette crise démocratique, parce que toute une partie de la société française a le sentiment, à tort ou à raison, moi je pense à raison, de ne pas avoir les canaux d'expression pour les aspects sociaux de la société, les inégalités qui sont criantes et dont les gens y souffrent, pour la question migratoire, pour la question nationale, pour la question européenne. Il y a cette demande-là de pouvoir s'exprimer partout, puisque maintenant on est une société qui est plus verticale mais une société horizontale, et l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron, il est élu avec 25% des Français, donc en fait il a tous les pouvoirs, y compris l'Assemblée nationale, tous les pouvoirs sur un quinquennat. Donc c'est compliqué. Donc tout le monde sent bien que le pouvoir présidentiel s'est rétracté et que finalement la société est étouffée. Donc changeons dans ce cas-là l'article 11. Demandons à Emmanuel Macron le référendum sur le référendum, et puis après, on traitera les questions sociales, retraite, les questions migratoires, ce que vous voulez. Moi, ça me paraît, ce qui se passe en Suisse me paraît quelque chose d'intéressant.
Ça permet aussi de poser des questions par rapport à l'opinion publique, mais aussi dans la classe politique, Geoffroy Lejeune. Et dans cette proposition de référendum de LR, il y avait l'objectif de réformer, je le disais tout à l'heure, l'accès aux prestations sociales des migrants. Et ça, le gouvernement est contre, le Parti Socialiste l'a fait savoir également en étant contre, alors que c'était le cheval de bataille de LR par rapport à ce référendum.
Tout ce que j'entends sur le sujet quasiment me choque. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire, ces institutions, le Parti Socialiste en effet, le gouvernement, etc., sont en train de dire qu'il est scandaleux et forcément d'extrême droite de considérer qu'on doit réfléchir à une différence entre les gens qui ont la nationalité française et les gens qui ne l'ont pas. Les gens qui disent ça ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils nient l'existence même de la nation en tant que nation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une différence entre soi et l'autre, il n'y a plus de raison d'avoir un pays, il n'y a plus de raison d'avoir une nation.
D'accord, j'entends Geoffroy, mais tu as juste un sujet qui est un sujet historique. Ça veut dire que la seule fois dans ce pays où il y a une logique de préférence nationale identifiée en tant que telle, parce qu'évidemment il y a une différence, quand tu n'as pas la nationalité française, tu ne votes pas. C'est une différence majeure. Par exemple, tu n'as pas accès au concours de la fonction publique, par exemple. Donc c'est quand même des différences importantes. Mais dans l'histoire, pourquoi il y a un refus, notamment de la gauche, sur la logique de la préférence nationale? Parce que c'est Pétain. Le moment où il y a une logique où on chasse les juifs, on fait un statut des juifs, on sort les juifs.
C'est Pétain.
C'est le seul moment dans notre histoire de France, c'est au moment de Vichy, qu'il y a une logique de préférence nationale et où on dit les juifs ne sont plus dans la nation française, donc on les sort, on vire les profs, on vire les anciens combattants, on vire les profs des universités.
Et vous les comparez aux migrants?
Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'imaginaire d'une partie des Français, cette logique-là de se dire on fait une différence par rapport à ça, c'est que si on s'oppose à cette logique-là de préférence nationale, parce que on a historiquement un très mauvais souvenir de la seule fois où était appliquée cette logique de préférence nationale.
Pardon, mais sur le blocage de la gauche sur Pétain et sur Vichy, il faut arrêter deux secondes. Dans ce cas-là, supprimons la fête des mères, c'est lui qui l'a instaurée. C'est complètement grotesque. Ensuite, la préférence nationale, pardonnez-moi, elle n'existe pas à Vichy, elle existe dans l'histoire de France jusqu'aux années 80, en fait. C'est ça l'histoire. Donc, on a arrêter. Peut-être parce qu'il y avait cette espèce de fantasme, de tropisme, de crainte, de scrupule en réalité, mais il faut arrêter avec ça. On n'est pas, moi je me sens pas responsable de Vichy, déjà pour commencer. La classe politique actuelle, a priori, personne n'a collaboré. Ensuite, il y a des gens qui ont collaboré, à qui on a ensuite tressé des couronnes de laurier parce qu'ils ont fait autre chose dans leur vie. Robert Schuman, il était ministre du maréchal Pétain, par exemple. Bon, bah, ça n'empêche pas de le célébrer. Il faut arrêter avec
ça. Mais ça n'empêche pas que. Tu sais très bien qu'un imaginaire politique, ça se prolonge. On vit encore dans un imaginaire politique de la Révolution française. Je ne ressens pas à Robespierre, je ne ressens pas à Danton. Mais n'empêche qu'il y a quand même dans un imaginaire politique.
Je vais le dire différemment. En fait, ce sont des gens qui ont la préférence étrangère chevillée au corps, qui ont décidé de faire passer pour vichiste toute idée qui consisterait à avoir la préférence nationale. C'est plutôt ça, en fait. C'est une assimilation au maréchal Pétain et aux lois de 40. De tout ce qui serait différent du corpus originel de la gauche. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord en fait. D'ailleurs, les Français sont loin d'être vichistes et pourtant les Français sont d'accord avec ça.
On va encore parler des aides sociales, mais pour les Français notamment, et les aides sociales sur le long terme, pour notre quatrième thématique avec nos invités sur le plateau Ça se dispute. Avec ce projet de loi, Guillaume Kasbarian veut mettre fin au principe de logement social à vie. Le ministre du Logement veut réclamer aux bailleurs sociaux une évaluation régulière des locataires. Ce qu'il faut savoir de ce projet, Michael Dos Santos et Marine Sabourin nous disent tout.
Guillaume Kasbarian veut mettre fin au logement social à vie. Au journal des Échos, le ministre du Logement avance l'idée d'un contrôle régulier des locataires. Objectif, permettre aux 1 800 000 ménages en file d'attente d'accéder plus rapidement à un bien.
Il faut réinterroger la pertinence à continuer à occuper un logement social de ceux qui ont largement dépassé les plafonds de revenus, ont pu hériter, ont parfois une résidence secondaire en leur possession et dont le patrimoine a évolué.
Une idée partagée par de nombreux maires.
On ne devrait pas pouvoir habiter toute sa vie dans un logement social ou bénéficier d'aide sociale. Il faut que ça vous donne vraiment un coup de main à un moment donné et après laisser la place à des personnes qui en ont vraiment besoin. Certains se lèvent très tôt le matin pour aller travailler. À 200 ou 300 euros près, ils gagnent à peu près pareil que quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui lui a beaucoup d'avantages par rapport à des logements sociaux, simplement parce que parfois il ne veut pas aller travailler.
Le gouvernement compte aussi donner plus de pouvoir aux maires. Avec ce texte, il présiderait systématiquement les commissions d'attribution des HLM.
Ça va dans le bon sens en termes de décentralisation. Là où il faut être extrêmement vigilant, c'est d'éviter tout clientélisme.
Selon le ministre, 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui.
Et je précise, Philippe Doucet, qu'aujourd'hui, la France compte 5 800 000 logements sociaux, qu'il y a une crise du logement, en effet, qu'il y a des gens qui n'ont pas de toit. Donc, cela veut dire qu'il faut donner à ceux qui en ont vraiment besoin?
Non, mais alors, honnêtement, j'ai essayé de rester calme. Parce que si, là, franchement, alors j'ai été président d'un office HLM et j'ai monté une coopérative HLM. Et Argenteuil, la question du logement social, c'est une question très importante. Donc, j'aime autant vous dire qu'on connaît, malheureusement, le sujet par cœur. Donc, enfin, je ne sais pas comment ce type est ministre, mais c'est pour le coup raconter n'importe quoi. Hein. Comment ça marche l'histoire, hein? La première règle aujourd'hui, c'est qu'il y a des communes délinquantes, parce que la loi dit que toutes les communes doivent avoir 25% de logements sociaux et que les communes doivent payer des amendes si elles ne font pas ça, sous l'autorité des préfets. J'aime autant vous dire que les préfets n'appliquent pas cette loi et qu'il y a plein de communes délinquantes. Et avec des amis politiques, on avait fait la tournée des villes du Val-d'Oise. De mémoire, à l'époque, il y en avait 26 qui étaient hors la loi. Bien, hors la loi. Donc, à l'arrivée, ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on constate sur une partie du parc social? On constate l'inverse, on constate une paupérisation parce qu'il y a un vieillissement des locataires et on a une paupérisation de nos locataires. Ce qui pose plein de problèmes dans l'équilibre des villes, notamment dans l'équilibre des âges dans une ville. Troisième aspect, sur ceux qui gagnent un peu plus. D'accord? Ceux qui gagnent un peu plus. Ils payent un surloyer, c'est imposé par la loi. Et quand je dis un surloyer, c'est pas un petit surloyer. C'est beaucoup plus parce qu'il y a des plafonds de ressources qui sont déclarés, ils payent un peu plus. D'accord? Et par exemple, je me suis battu comme un chien contre le surloyer. Pourquoi? Parce que quand dans une ville, vous avez 30% ou 35% de logements sociaux, il y a des villes à 60% de logements sociaux. Si vous dites, tous ceux qui sont dans la petite classe moyenne, vous dégagez, mais vous avez plus que des pauvres. D'accord? Donc vous retrouvez à la tête de communes avec que des pauvres âgés. Donc c'est bien sympathique parce que c'est pas à Neuilly qu'il va y avoir du jour au lendemain 30% de logements sociaux. Et donc dans des villes paupérisées, aujourd'hui on se retrouve avec ces difficultés-là. Je donne un exemple parce que ça a été vu, le maire de Montpellier l'a évoqué, Michael Delafosse, il a fait cet exercice-là à Montpellier, qui a aussi beaucoup de logements sociaux. 1% de personnes pourraient rentrer dans ce dispositif. Alors, je veux bien qu'on s'occupe du 1% et pas des 99%, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Les villes ne veulent pas construire de logements sociaux, parce que logements sociaux, ça fait des pauvres. Et en plus, souvent, les pauvres, en Ile-de-France notamment, ou dans les grandes métropoles, c'est des Noirs et des Arabes. C'est ça, la réalité des choses. Et donc, aujourd'hui, par exemple, nous, on s'est battu contre le préfet sur la loi Dalo. Parce que Argenteuil, du coup, la loi Dalo faisait que j'ai eu le plus grand projet en rue de France, on a mis 400 millions d'euros, on a rénové un quartier, deux quartiers entiers, et à la fin, on nous le paupérise en nous remettant dans le logement social des gens plus pauvres, parce que les classes moyennes, on les vire. Et quand vous êtes en Ile-de-France, aujourd'hui, vous êtes flic, vous êtes secrétaire, vous êtes infirmière, mais si on vous empêche l'accès au logement social, vous n'en sortez pas. Et pareil, quand on dit le logement social, pardon, il y a du logement très social, il y a du plus, il y a du... vous avez toute une série de dispositifs avec des volumes et des montants de loyers complètement différents.
Mais Geoffroy Lejeune, ce qu'identifie Guillaume Kasbarian, le ministre... Donc,
pardon la passion, mais là, ça, franchement,
non, mais vous avez raison,
ça
mais
touche
vous connaissez
la vie,
bien le dossier,
ça,
et c'est intéressant.
Ça touche la vie quotidienne de millions de gens avec, en fait, qui souffrent par rapport à ça. La seul vrai sujet, pardon, pour être complet, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de personnes âgées qui occupent des grands logements. C'est là où vous avez des tensions. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans le système du financement du logement social qui est absurde, eh ben aujourd'hui, une personne âgée qui est dans un T5, si vous lui proposez un T3, si elle se tombe, elle va payer le même loyer dans un T3 que dans un T5.
Ce qui identifie Guillaume Kasbarian pour les logements sociaux à vie, ce sont ces locataires qui, à un moment donné, ont eu besoin, remplissaient toutes les cases pour obtenir un logement social et qu'entre-temps... Et tant mieux pour eux.
Mais payer un surloyer dans ce cas.
Est-ce que c'est identifiable cela
en
permanence? On peut le voir de manière systématique.
Manifestement, assez largement contourné en réalité. Parce que, en fait, c'est comment vous dire, moi j'ai pas dirigé d'office HLM, mais est-ce que oui ou non il y a des gens qui restent toute leur vie en logement social?
Oui, mais il y a des gens qui restent toute leur vie aujourd'hui, par exemple.
La réponse est oui.
Regardez, vous avez.
Deuxième question, est-ce que c'est normal?
Avec des gros salaires.
Non, mais attendez, ok, mais. Je vous donne un exemple. On a eu une énorme bataille à Argenteuil sur ce sujet-là. Mmh. Une cité qui s'appelle Jocury, une cité d'urgence. OK? Un beau matin, mon prédécesseur dit, on va raser la cité. Bon, très bien. OK? Cité d'urgence, des petits loyers. Les mamies, elles m'ont rattrapé. D'accord? Mais c'est quoi leur retraite? Donc, si vous virez ces gens-là, même là, à l'époque, c'était la destruction. Ah, mais même si vous les virez, vous les mettez où? Il y a des gens, pauvres dans ce pays.
C'est du cas par cas, il y a des excès.
À l'arrivée, aujourd'hui, la réalité
de
ça. Non, mais ok, mais c'est franchement, je veux bien que tout le monde soit polarisé sur la fraude. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai toute une partie du parc social qui se paupérise parce qu'il y a plus de personnes âgées avec des très faibles retraites.
Qui se paupérise, mais
voilà,
qui
le mari décède, ils ont des pensions de réversion très faibles, etc. C'est ça la difficulté.
Vous pouvez répéter l'argumentaire autant de fois que vous voulez. Il reste qu'à la fin, il y a des gens qui passent leur vie en logement social alors que leurs revenus augmentent, premièrement. Ça, c'est la. Malheureusement, ça existe. Ensuite, il y a un autre sujet parce que vous avez dit. Une chose qui m'a amusé, je crois que la France c'est autour de 40% des logements sociaux d'Europe ou de 30% des logements sociaux d'Europe, c'est un chiffre colossal, monstrueux. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce système?
C'est pas vrai, il y a plus de locataires en Allemagne. Ça, nous en France on appelle ça du HLM un système étatique. En Grande-Bretagne il y a aussi énormément de logements sociaux, mais ça fonctionne autrement. Il y a plus de gens locataires en Allemagne qu'en France.
Je vous retrouverai le chiffre parce qu'il est important. C'est le préfet Michel Aubouin qui vient de faire un rapport justement sur le sujet des HLM. Qui le donnait, je l'ai lu le week-end dernier dans le JDD. Moi, la question que je voudrais, à laquelle je voudrais répondre, c'est vous dites, la ville de Neuilly ne fait pas de logements sociaux, il y a des villes délinquantes, etc. Mmh. Ces gens-là, les maires de ces villes-là, décident de payer une amende, préfèrent amputer leurs finances plutôt que d'accueillir...
Elle est faible, l'amende.
Pas du tout.
Vous avez le potentiel fiscal de la ville de Neuilly, ils préfèrent payer l'amende. Ils font payer l'amende.
Posez-vous la question. En réalité, la vérité, c'est la seule question, c'est est-ce que le système HLM... entretient des pauvres dans la pauvreté, voire dans l'entre-soi de se coopter pour garder des logements, etc. Ou est-ce que le système de logements sociaux est bénéfique et joue son rôle? Et je suis d'accord sur un point avec vous, c'est que je pense que les vrais pauvres, en tout cas ceux qui mériteraient, le flic, l'infirmière, l'assistante sociale, etc., qui n'ont pas les moyens de se loger en région parisienne, par exemple, aujourd'hui ne pas être
devraient en bénéficier de manière peut-être un peu plus
rapide. Ça veut dire avoir un logement social. Moi, j'ai logé des flics.
Vraiment.
Moi, j'ai logé des flics dans du logement social parce que à un moment donné, y compris dans les endroits tranquilles, parce qu'autrement ils arrivaient pas à se loger, à la demande du commissaire de police.
Merci à Geoffroy Lejeune, merci à Philippe Doucet,
merci
pour cette édition.
Pardon pour la passion, mais c'est un sujet important.
Avec grand plaisir, mais c'est comme ça qu'on vous aime, on veut de la passion, évidemment, si ça se dispute.
J'ai toujours pas envie avec Geoffroy Lejeune.
Olivier de Kerenfleck, dans quelques instants, c'est Soir Info sur CNews.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.